Le dernier des Valerius de Henry James. Chapitre 1er. Mon père, digne New-Yorkais, ayant fait fortune dans le commerce, je le dis avec un certain orgueil, céda au conseil du maître de dessin qu'il m'avait donné et m'envoya à Rome. Ma vocation pour la peinture était réelle, et séduit par les richesses de la ville éternelle, je ne la quittais plus depuis bientôt 30 ans. J'y attirai même une de mes cousines, dont l'unique enfant était ma filleule. Usant des prérogatives que me donnaient mon affection, mon âge et mon titre de parrain, j'avais plus d'une fois déclaré à Marthe que si elle épousait un étranger, il lui faudrait se passer de mon consentement. Aussi fus-je très étonné lorsqu'un beau jour elle entra dans mon atelier et me présenta le jeune comte Valerio comme son fiancé. Le premier moment de surprise passé, je ne pus m'empêcher de contempler sans une sorte de bienveillance paternelle l'heureux élu. Au point de vue pittoresque, elle avec ses tresses blondes, lui avec sa chevelure noire, c'était là un couple bien assorti. Elle me l'amena d'un air à moitié orgueilleux, à moitié timide, le poussant du coude et me suppliant avec un de ses gestes de gazelle effarouchée de me montrer poli. On ne m'a jamais accusé de grossièreté, que je sache, mais Marthe était si éprise qu'elle trouvait que son futur méritait d'être traité avec les plus grands égards. Certes, la noblesse de vieille date du comte Valerio n'aurait pas suffi pour séduire une Américaine qui avait l'allure et presque les habitudes d'une princesse. Elle aimait, voilà tout. Son imagination, aussi bien que son cœur, avait été frappée. C'était un fort beau garçon que le comte et son genre de beauté n'avait rien de cette fadeur que l'on reproche parfois aux descendants de la race latine. Il se distinguait par un air de profondeur. Son sourire grave et lent, s'il n'annonçait pas une grande vivacité d'esprit, indiquait une calme intensité de sentiment que je trouvais d'un bon augure pour le bonheur de Marthe. La fausse urbanité de ses compatriotes n'avait pas déteint sur lui, et son regard brillait d'une sorte de lourde sincérité qui semblait l'empêcher de vous répondre avant qu'il ne fût sûr de vous avoir bien compris. Peut-être ne se serait-il pas volontiers engagé dans une discussion politique ou esthétique. « Il est bon et fort et brave, » me dit ma filleule, et je n'eus pas de peine à la croire. Le comte était fort, on en pouvait douter. Sa tête et son cou rappelaient certains bustes du Vatican. Habitué depuis longtemps à tout regarder avec les yeux d'un peintre, je m'étonnais de voir un pareil cou sortir de la cravate blanche de nos jours. Ce cou soutenait une tête d'une rondeur aussi massive que celle de l'empereur Caracalla, et les boucles qui l'ornaient avaient la même abondance sculpturale. Les Romains d'autrefois portaient de ces chevelures-là lorsqu'ils parcouraient le monde nu-tête. Elles formaient un arc parfait au-dessus de son front un peu étroit, et se complétaient par une barbe bien fournie que le rasoir n'avait pas encore rendue moins soyeuse. Le nez et la bouche manquaient de délicatesse, mais la forme avait la correction et la vigueur d'un dessin classique. Son teint, d'un brun chaud, semblait incapable de trahir aucune émotion, et on aurait pu comparer ses grands yeux clairs à deux billes d'agate. Il était de taille moyenne, avec une poitrine assez large, pour faire craindre de voir éclater son linge sous l'effort égal de sa respiration. Et pourtant, grâce à son bon sourire humain, il n'avait l'air ni d'un jeune taureau, ni d'un gladiateur. Peut-être sa voix résonnait-elle avec une certaine dureté. Mes félicitations ne me valurent qu'une réponse cérémonieuse. Les phrases de politesse échangées au siècle d'Auguste ont dû être prononcées avec cette gravité. J'avais toujours regardé ma filleule comme une petite personne essentiellement d'américaine, dans le sens le plus flatteur du mot, et je doutais que ce jeune latin réussît jamais à comprendre l'élément transatlantique qui dominait chez Marthe, bien que tout annonçât qu'il serait pour elle un compagnon loyal et aimant. Elle me parut si douce, si séduisante dans sa blonde gentillesse, qu'il me fut impossible de croire qu'il n'eût pas songé à cela autant qu'à la belle dot, dont, en bon italien, il avait sans doute demandé le chiffre exact. Quant à lui, il ne possédait que le domaine paternel, une villa située près des murs de Rome, et que, faute de ressources, il laissait dans un triste état de délabrement. « Elle est tout aussi amoureuse de la villa que du comte, » me dit la mère de Marthe. « Elle songe à convertir son futur, rien de mieux, mais elle songe surtout à restaurer la villa. » Les tapissiers se mirent à l'œuvre bien avant le jour fixé pour le mariage. Il fallut remeubler les salons et ratisser les allées du parc. Marthe fit de nombreuses visites d'inspection durant ses préparatifs. Un jour, elle entra dans mon atelier avec une mine consternée. Elle venait de trouver les ouvriers en train de gratter le sarcophage qui ornait la grande avenue, le dépouillant de sa couche de mousse, lui enlevant la sainte moisissure des siècles. C'est ainsi qu'ils entendaient embellir l'antique villa. Elle leur avait ordonné de transporter le pauvre monument dans le coin le plus humide de la propriété, car, après le sourire de son fiancé, sourire si lent à venir, si lent à disparaître, ce qu'elle admirait le plus, c'était le teint rouillé des vieux marbres. Quant à la conversion du comte, elle s'opérait plus lentement que le reste, et à vrai dire, Marthe déploya peu de zèle dans cette dernière entreprise. Elle aimait son futur au point de croire que nul changement ne le rendrait meilleur. De son côté, il eut le bon goût de n'exiger d'elle aucun sacrifice de ce genre, et je fus frappé un jour de l'heureuse promesse d'une scène dont le hasard me rendit témoin. C'était un dimanche à Saint-Pierre, durant les vêpres. J'avais rencontré là ma filleule, qui se promenait radieuse au bras de son fiancé. La foule se tenait groupée devant l'autel, et la nef restait presque déserte. De temps à autre, la voix des chantres m'arrivait pour se perdre avec lenteur dans l'atmosphère alourdie par les parfums qui s'échappaient des encensoirs. Au moment où je l'aperçus, Marthe, la tête rejetée en arrière, contemplait la magnifique immensité de la voûte et du dôme. Je compris qu'elle se trouvait dans cette disposition d'esprit où le sentiment de l'existence gravite autour d'un centre unique et que son admiration pour les splendeurs de l'art se confondait avec son amour. Les fiancés s'arrêtèrent près des sombres confessionnaux, à peine suffisants pour le nombre des pécheurs repentis, et Marthe parut adresser à son compagnon quelques protestations passionnées. Peu d'instants après, je les rejoignis. « Ne pensez-vous pas comme moi, » me dit le comte, qui ne m'adressait jamais la parole qu'avec une déférence affectueuse, « qu'avant d'épouser une si pure et si douce créature, je ferais bien d'aller m'agenouiller là-bas sur l'heure et de confesser tous les péchés que j'ai pu commettre. » Marthe le regarda d'un œil où le reproche se mêlait à l'admiration. Elle semblait affirmer que son prétendu s'accusait à tort ou que, s'il avait des défauts, ce ne pouvait être que des défauts trop magnifiques pour qu'il eût à en rougir. « Sais-tu ce que je viens de lui proposer ? » dit-elle en se penchant vers moi avec la confiance filiale qu'elle m'a toujours témoignée. Et en rougissant un peu, je suis prête à changer de religion s'il me l'ordonne. Il y a des moments où je suis terriblement lasse d'assister aux cérémonies du catholicisme en simple spectatrice. Ce serait un soulagement pour moi de venir ici pour prier. Après tout, les églises sont faites pour cela comme nos temples. Donc, cameo mio, si l'idée que je suis une hérétique jette une ombre sur votre cœur, j'irai m'agenouiller devant le bon vieux prêtre qui entre dans ce confessionnal et je lui dirai « Mon père, je me repens, j'abjure, je crois. Baptisez-moi au nom de la vraie foi. » « Si c'est une concession que tu veux faire au comte, répliquai-je, il devrait te donner l'exemple en devenant protestant. » Elle avait parlé d'un ton léger, mais avec une ferveur mal dissimulée. Le jeune homme la contempla d'un air grave et surpris, puis secoua la tête. « Gardez votre religion, » dit-il. « Si vous essayez d'embrasser la mienne, peut-être n'étreindriez-vous qu'une ombre. Je suis un pauvre catholique. Je ne comprends guère ces chants et ces splendeurs. Lorsque j'étais jeune, j'ai eu bien de la peine à apprendre mon catéchisme et on me traitait de païen. Il ne faut pas que vous soyez meilleur catholique que votre mari. Quoique je ne comprenne pas non plus votre religion, je vous prie de n'en point changer. Si elle a servi à faire de vous ce que vous êtes, elle ne saurait être mauvaise. » Et prenant la main de Marthe, il allait la porter à ses lèvres lorsqu'il se rappela qu'il se trouvait dans un endroit où les passions profanes sont malvenues. « Sortons, » murmura-t-il en se pressant le front, « cette atmosphère me fait toujours mal. » Le mariage fut célébré au mois de mai, et nous nous séparâmes pour l'été. La mère de la petite comtesse alla répandre sur la haute société de New York l'éclat de sa noblesse de reflet. Lorsque je revins à Rome, vers le commencement du printemps, je trouvai le jeune couple installé dans la villa, dont on réparait peu à peu les dégradations. Je me mis en frais d'éloquence afin d'empêcher les décorateurs d'avoir la main trop lourde. En ma qualité de peintre toujours à la recherche de sujets, j'aurais préféré voir les ruines s'accumuler. Ma filleule partageait mes idées, parfois même, elle se montrait plus conservatrice que moi. Je souriais de son zèle archéologique, et je l'accusais d'avoir épousé le comte parce qu'il ressemblait à une statue de la décadence. Je passais mes journées à la villa, et mon chevalet demeurait sans cesse dressé sous les arbres du parc. Je me pris d'une passion d'artiste pour cette charmante retraite, et j'établis une intimité avec chaque bosquet enchevêtré, chaque tronc tordu, chaque vase couvert de tartre, chaque sarcophage effrité, avec les bustes de ces vieux romains défigurés qui n'étaient pas assez beaux pour perdre impunément un trait de leur visage sévère. Le parc montait d'étendue, mais bien qu'il existe à Rome beaucoup de villas plus prétentieuses et plus splendides, aucune ne me paraissait plus romanesque dans sa beauté inculte, plus riche en précieuses vieilleries, plus remplie d'échos historiques. Il y avait là une allée bordée de houx dans laquelle je venais régulièrement passer quelques heures par jour. Les branches des arbres s'entrelaçaient de façon à former une arcade d'une symétrie originale, et comme l'avenue se trouvait exposée sans interruption à l'ouest, l'approche de la nuit y répandait une brume dorée qui, pénétrant à travers les feuilles, planait sur les branches noueuses et sur les marbres plaqués de mousse. Elle servait d'asile à d'innombrables fragments de sculptures, statues sans nom, têtes sans nez, sarcophages rongés, qui lui donnaient un aspect délicieusement chimérique. Les statues se dressaient là, dans un crépuscule perpétuel, comme des êtres conscients plongés dans les tristes souvenirs d'un passé irrévocable. Marthe jouissait d'un bonheur idyllique et s'abandonnait tout entière à son amour. Je fus obligé de m'avouer que les règles les plus inflexibles ont leurs exceptions et qu'un comte italien peut devenir un mari exemplaire. Valerio méritait ce titre et paraissait disposé à se laisser adorer. L'existence du jeune couple n'était qu'un échange de caresses aussi candide et aussi expansive que celle des bergers et des bergères de Théocrite. Se promener d'un pas indolent à travers l'allée des houx, sentir le bras de son mari autour de sa taille, rêver la joue appuyée sur l'épaule de son compagnon, rouler pour lui des cigarettes qu'il fumait silencieusement dans la rotonde pavée de mosaïque qui s'ouvrait au centre de la maison, lui verser le vin contenu dans une vieille amphore, ces gracieuses occupations suffisaient au bonheur de la jolie comtesse. Elle se promenait parfois à cheval avec son mari sur les sentiers couverts d'herbes, à l'ombre des aqueducs et des tombes. Parfois, elle souffrait qu'il montrât sa charmante femme dans les grands dîners ou au bal de Rome. Elle tenta même de réaliser, au profit du comte, un beau projet de lecture quotidienne des journaux. Mais cet exercice était sujet à des fluctuations causées par la facilité déplorable avec laquelle Camillo s'endormait. Ce défaut, sa femme ne cherchait pas à le déguiser, et songeait encore moins à le blâmer. Elle ne demandait pas mieux que de rester assise auprès de lui et de chasser les mouches tandis qu'il s'abandonnait à une somnolence pittoresque. S'il m'arrivait de me présenter devant une de ses siestes, elle posait un doigt sur ses lèvres et m'assurait à mi-voix qu'elle trouvait son mari aussi beau endormi qu'éveillé. J'avoue que je me sentais tenté de répondre qu'il était au moins aussi divertissant, car le bonheur n'augmentait pas le nombre des sujets dont il aimait à s'entretenir. On ne pouvait l'accuser de manquer de bon sens, et ses avis sur les questions pratiques valaient la peine d'être écoutés. Il venait souvent s'asseoir près de moi lorsque je peignais et me soumettait des critiques amicales. Son goût était peu cultivé, mais il voyait juste. La mesure qu'il prenait de la ressemblance entre quelques détails de ma copie et de l'original méritait autant de confiance que si elle eût été obtenue à l'aide d'un instrument de précision. Toutefois, il semblait doué d'une discrétion ou d'une simplicité peu commune et absolument dépourvu d'idées. Il n'affichait ni croyance, ni espérance, ni crainte, rien que des goûts et des appétits auxquels il se livrait avec la sérénité d'un sybarite. Lorsque je le voyais errer sous les ombrages du parc en regardant ses ongles, je me demandais s'il possédait ce que l'on peut convenablement appeler une âme, et si un bon caractère joint à une bonne santé ne représentait pas la somme de ses mérites. « Il est fort heureux qu'il ne soit pas méchant, » pensais-je, car rien dans sa conscience ne tiendrait en bride les mauvais instincts. S'il avait des nerfs irritables au lieu d'un tempérament paisible, il nous étranglerait aussi facilement que le jeune Hercule étranglait les pauvres petits serpents. C'est l'homme de la nature. Par bonheur, sa nature est douce, et je puis mêler mes couleurs en toute sécurité. » À quoi songeait-il durant les loisirs ensoleillés qui le séparaient du monde des travailleurs, auxquels je me flattais encore d'appartenir malgré ma manie de barbouiller sur de vieux panneaux la copie de ces statues frusques qui ressortaient si bien sur un fond vert? Je m'imaginais qu'à certains moments sa pensée le transportait dans un autre monde. Il fallait une caresse de Marthe ou un bruit inattendu pour le tirer de sa rêverie. Les marques d'amour qu'il prodiguait à sa femme avaient quelque chose qui ne me plaisait qu'à moitié. Qu'il eût ou non une âme, il ne semblait pas soupçonner que la comtesse pût en posséder une. Je prenais un intérêt de parrain dans ce que je croyais pouvoir, sans pédanterie, appeler le développement moral de ma filleule. J'aimais avoir en elle un être susceptible des plus nobles émotions. Mais que devenait sa vie spirituelle dans cette longue lune de miel païenne? Un jour ou l'autre, elle se lasserait d'admirer les beaux yeux du comte et ferait un appel à son esprit. Je savais qu'elle formait des projets d'études et de charité, car elle voulait remplir dignement son rôle de patricienne. Mais bien que Valério trouvât les journaux soporifiques, je me doutais qu'il ne tournerait pas bien vite pour sa femme les pages du Dante, et que les anecdotes de Vasari ne le charmeraient guère. Pourrait-il conseiller, instruire, guider sa compagne? Et s'il devenait maire, comment partagerait-il ses responsabilités? Sans doute il assurerait à son petit héritier une solide paire de bras et de jambes, une abondante moisson de cheveux noirs. Mais j'avais de la peine à me le figurer enseignant au robuste bambin ses lettres, ses prières, ou les premiers rudiments des vertus enfantines. Le comte, il est vrai, possédait un talent qui ferait de lui un agréable camarade de jeu. Il portait sans cesse dans ses poches une collection de précieux fragments d'un antique pavage, échantillons de porphyre, de malachite, de lapis, de basalte, déterrés sur son domaine, et qui devaient leur poli à un maniement continuel. Vous auriez pu le voir s'amuser pendant des heures entières à les lancer à la file pour les rattraper sur le dos de sa main. Son talent était si remarquable qu'il envoyait une pierre à une hauteur de 5 pieds et la recevait à la descente. Je surveillais, avec une inquiétude affectueuse, quelques symptômes annonçant que Marthe s'apercevait que son mari ne la valait pas. Une ou deux fois, à mesure que les semaines s'écoulaient, je crus reconnaître à son regard qu'elle se rappelait certains entretiens où j'avais affirmé, avec autant de justesse que vous voudrez, qu'un Espagnol ou un Italien peut être un très brave garçon, mais qu'il ne respectera jamais au fond la femme qu'il prétend aimer. Presque toujours, cependant, mes noires prévisions se dissipaient dans l'atmosphère enchantée de l'antique paradis, où nous vivions isolés du monde moderne et n'ayant que faire des scrupules modernes. L'endroit était si calme, si bien enfoui dans un passé silencieux, que l'on y respirait malgré soi un bonheur somnolent. Parfois, tandis que je peignais, je voyais mes hôtes passer en se tenant par le bras à l'extrémité d'une avenue, et la brillante vision me faisait trouver mes couleurs plus ternes. Alors je me persuadais que j'avais pour mission de devenir le fidèle chroniqueur d'une poétique légende. Bien que le spectacle de cette rare félicité n'eût rien de monotone, j'appris avec plaisir que le comte, cédant aux sollicitations de Marthe, allait entreprendre une série de fouilles systématiques. Les fouilles sont un luxe coûteux, et ni Valério ni ses prédécesseurs immédiats n'avaient eu les moyens de faire de l'archéologie en amateur. Mais ma filleule, convaincue que le sol du parc cachait d'innombrables trésors, croyait honorer l'antique maison qu'il acceptait pour maîtresse en consacrant une partie de sa fortune à une bonne œuvre profitable aux arts. Elle pensait sans doute que ce généreux procédé enlèverait à ses dollars leur vile odeur commerçante. Elle consulta des experts et fut bientôt prête à jurer, en s'appuyant sur des prémices irréfutables, qu'une colossale statue de Minerve, en bronze doré, dont parle Strabon, attendait patiemment l'heure de la résurrection à 100 mètres de l'angle nord-ouest de la villa. J'eus l'honneur de dîner chez elle en compagnie de 2 vieux antiquaires grotesques qui, le repas achevé, durent se livrer à des marches forcées à travers le parc. Ces messieurs bien qu'ils ne fussent d'accord sur aucune autre question, déclarèrent à tour de rôle à la comtesse, en la prenant à part, que des fouilles savamment dirigées donneraient une récolte de splendides découvertes. Valério avait non seulement témoigné de l'indifférence, mais s'était opposé à ce projet. Plus d'une fois, il avait même interrompu les prévisions enthousiastes de sa femme avec une aigreur inusitée. « Qu'ils dorment en paix, les pauvres dieux déshérités, dit-il, ne troublent pas leur repos. Que leur veux-tu? Nous ne pouvons pas les adorer. L'Apollon, la Gérès, la Minerve, que tu es si sûr de découvrir, songes-tu à les placer sur des piédestaux pour qu'on les critique et qu'on les raille? Puisque tu ne peux croire en eux, ne les dérange pas. » Je me rappelle avoir été assez frappé de la véhémence d'un aveu que sa femme lui arracha, lorsqu'un jour, à la suite de quelques remontrances de ce genre, elle l'accusa en riant d'être superstitieux. « Oui, je suis superstitieux, » s'écria-t-il, « peut-être ne le suis-je que trop. Mais les Valérius sont des Italiens de la vieille roche, et il faut me prendre tel quel. » Ah, on voit et l'on entend ici des choses qui laissent derrière elles d'étranges influences. Ces choses ne te touchent pas, naturellement, puisque tu es d'une autre race. Moi, elles me frappent dans le bruit des feuilles, dans l'odeur du sol moisi, dans le regard vide de ces vieux marbres. J'ose à peine contempler une statue en face. Il me semble voir d'autres yeux rouler dans ces orbites de pierre, et je ne sais trop ce qu'ils veulent me dire. J'appelle ces pauvres statues des revenants. En conscience, nous en avons déjà assez dans le parc, qui se tiennent là, aux écoutes, plongeant les yeux dans chaque coin obscur, n'en déterrons plus. » Cette sortie de Valério était trop bizarre pour que sa femme y vît autre chose qu'une plaisanterie, et bien que je prisse les paroles du comte plus au sérieux, il plaisantait si rarement que j'aurais regretté d'interrompre le sourire de ma petite Marthe. Grâce à son sourire, elle triompha, et au bout de quelques jours, on vit arriver une sorte de détective doué, disait-on, du flair archéologique et escorté d'une douzaine de terrassiers. Pour ma part, ces mesures, par trop énergiques, ne me souriaient pas. Si j'aimais les statues déterrées, les préparatifs de l'exhumation ne me plaisaient guère, et je maudissais les bruits profanes qui menaçaient de troubler le silence de ma retraite. Le personnage chargé de diriger les fouilles m'inspira une assez vive antipathie. C'était un petit homme, fort laid, qui avait l'air d'un gnome sorti des entrailles de cette terre qu'il bouleversait pour y chercher des chefs-d'œuvre. Il ne louchait pas, et cependant ses yeux glauques vous regardaient rarement en face. Sa chevelure inculte cachait son front, et malgré la petitesse de sa taille, ses bras étaient d'une longueur démesurée. Il allait, furetant partout avec vivacité, et sur sa large bouche s'épanouissait un sourire méphistophélique qui me donnait à croire qu'il songeait à l'argent que le comte se disposait à enfouir plus qu'au marbre ou au bronze que nous espérions tirer du sol. Dès que la première motte de gazon eut été retournée, l'humeur de Valério changea et la curiosité vainquit ses scrupules. Il aspirait avec délice l'odeur de la terre humide et son regard devenait de plus en plus animé à mesure que l'on creusait. Si une pioche résonnait contre une pierre, il poussait une exclamation de joie, et pour l'empêcher de sauter dans la tranchée, il fallait qu'un des travailleurs lui annonçât que c'était une fausse alerte. La perspective d'une découverte causait à mon hôte une étrange agitation nerveuse. Plus d'une fois, je le rencontrais, se promenant d'un air inquiet sous les arbres séculaires, comme s'il eût enfin commencé à penser. Il me prenait alors le bras, et discutait avec un optimisme fiévreux les probabilités d'une trouvaille. Cette ardeur subite me surprenait un peu, et je cherchais à deviner s'il s'enthousiasmait en vue du passé ou de l'avenir, si, au lieu de rêver aux beautés d'une Minerve ou d'un Apollon, il n'en supputait pas la valeur vénale. Lorsque le comte me dénonçait les terrassiers comme une bande de fainéants, leur chef se permettait à mon adresse un clignement d'yeux qui semblait me donner à entendre que les fouilles cachaient un piège. Notre patience fut soumise à une assez longue épreuve, car on creusa en vain plus d'un trou. Le comte, découragé, cessa d'abréger ses siestes, mais le petit expert poursuivit ses recherches en homme qui connaît son métier. Tandis que je me tenais devant mon chevalet, j'entendais les travailleurs à l'œuvre, Quand le bruit des pioches devenait moins régulier, j'interrompais ma tâche et mon cœur battait plus fort. Un matin, il me sembla que les voix étaient plus animées que de coutume. Mais préoccupé par un effet de lumière difficile à reproduire, je ne me dérangeais pas. Soudain, une ombre obscurcit le bas de ma toile et je me retournai. Le petit gnome se tenait à mon côté, l'œil brillant, casquette en main, le front baigné de sueur. Il portait sous le bras un fragment de marbre. En réponse à mon regard interrogateur, il me le montra, et je vis que c'était une main de femme admirablement sculptée. « Venez, » me dit-il laconiquement, et il me conduisit vers la tranchée. Les ouvriers se pressaient autour de la fosse, de sorte que je n'aperçus rien jusqu'à ce que mon guide leur eût ordonné de s'écarter. Alors, éclairé en plein par les rayons du soleil, qu'elle reflétait presque en dépit de ses taches terreuses, inclinée sur un amas de décombres, m'apparut une superbe statue de marbre. Au premier coup d'œil, elle me sembla colossale, mais je ne tardais pas à reconnaître que ses proportions parfaites n'avaient rien de surhumain. Mon pouls se mit à battre la charge, car je me trouvais en face d'un chef-d'œuvre et l'on pouvait se sentir fier d'être un des premiers à lui souhaiter la bienvenue. Sa beauté merveilleuse lui donnait un aspect vivant. On eût dit que ses yeux distraits renvoyaient au spectateur le regard de surprise. Elle était amplement drapée, et je vis que je n'avais pas devant moi une Vénus. « C'est une Junon, » me dit d'un ton décisif le gnome, comme s'il eût deviné ma pensée. En effet, elle semblait personnifier la suprématie et le repos céleste. Sa tête sereine, entourée d'une seule bandelette, ne pouvait s'abaisser que pour signifier un ordre. Ses yeux regardaient droit devant elle, sa bouche respirait un orgueil implacable, une de ses mains, étendue, paraissait avoir autrefois porté quelque emblème de souveraineté olympienne. Le bras dont la main avait été brisée pendait à son côté dans une pose majestueusement classique. L'œuvre, dans ses moindres détails, était d'une grâce achevée, et bien que l'effort tenté pour donner du caractère à l'expression rappelât vaguement les procédés modernes, cette Junon était conçue à la manière large et simple de la grande période grecque. C'était un chef-d'œuvre et une merveille de conservation. « A-t-on prévenu le comte ?» demandai-je bientôt, car ma conscience m'adressait des reproches, comme si nos regards eussent enlevé quelque chose à la statue. « Le seigneur comte n'est pas levé, » répondit le petit explorateur en ricanant. « On a craint de le déranger. »« Le voici !» s'écria un des ouvriers. Et l'on s'écarta pour livrer passage au maître, dont le sommeil venait d'être brusquement interrompu, à en juger par son teint plus animé que de coutume et par sa chevelure un peu ébouriffée. « Ah, mon rêve ne me trompait pas » s'écria-t-il, après être resté un moment immobile, les yeux fixés sur la statue. « Qu'avez-vous rêvé ?» lui demandai-je, en remarquant que son visage trahissait moins de satisfaction que d'effroi. Que l'on avait découvert une Junon, et qu'elle se levait pour poser sa main de marbre sur la mienne. Une sorte de cri rauque s'échappa du gosier des ouvriers effrayés. « Voilà la main, » dit le petit homme, montrant son admirable fragment. « Je la tiens depuis une demi-heure. Ce n'est donc pas elle qui a pu vous toucher. » « Quant au reste, il n'y a pas d'erreur, » ajoutai-je. « C'est bien une Junon. Admirez-la à votre aise. » Je me retirai. Puisque le comte était superstitieux, je voulais lui laisser le temps de se remettre. Je regagnai la maison pour annoncer la bonne nouvelle à ma filleule, que je trouvais sommeillant sur un gros bouquin archéologique, mais d'un sommeil sans rêve. « Ils ont jeté la sonde au bon endroit, » lui dis-je. « Ils viennent de mettre au jour une Junon. Une Junon de Praxitèle, pour le moins. » Marthe laissa tomber son inoctavo et sonna pour demander une ombrelle. Je lui décrivis de mon mieux la statue, mais non de façon à la lui faire admirer sur parole, car elle m'écouta avec une petite moue dédaigneuse. « Un long péplum cannelé, » répéta-t-elle. « Drôle de costume pour une statue. Je ne crois pas qu'elle soit si belle. »« Elle est assez belle pour vous rendre jalouse, » répliquai-je. Nous trouvâmes Valério les bras croisés en contemplation devant la déesse ressuscitée. L'irritation nerveuse causée par son rêve s'était dissipée, mais sa physionomie trahissait une émotion encore plus profonde. Il était pâle, et il demeura silencieux lorsque sa femme s'approcha de lui. Toutefois, je ne jurerai pas que l'attitude de Marthe ne fut pas un hommage plus sincère rendu à la beauté de Junon. Chemin faisant, la verrerie de mes rhapsodies, et je m'étais rappelé une assertion d'un auteur dont le nom m'échappe et qui prétend que les femmes n'ont pas le sentiment de la beauté parfaite. Elle admira longtemps la statue sans prononcer une parole, la tête appuyée sur l'épaule de son mari. Puis elle s'avança d'un air presque craintif vers le marbre, auquel on avait improvisé une sorte de piédestal. La jeune femme posa ses deux mains roses sur les doigts de pierre de la déesse et les pressa sous une chaude étreinte, fixant ses yeux brillants sur ce front imperturbable. Lorsqu'elle se retourna, une larme d'admiration tremblait sous ses cils, larme que son mari ne remarqua pas tant il demeurait absorbé. Il avait sans doute donné l'ordre de servir à boire aux ouvriers. En ce moment, on roula jusqu'à nous un tonneau de vin. Le petit gnome, ayant rempli le premier verre, s'avança, tête découverte, et l'offrit obséquieusement à la comtesse. Elle n'y fit qu'y tremper les lèvres et le passa à son mari. Celui-ci le porta machinalement à sa bouche. Puis, il se ravisa tout à coup, leva le verre au-dessus de sa tête et le vida avec solennité au pied de la statue. « Mais c'est une libation » m'écriai-je. Valerio ne répondit pas et s'éloigna à pas lents.